Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre avec Larry Tremblay et Claude Poisson. Je suis Martin Fauché, je suis conseiller artistique au Festival Transamérique et donc j'ai le plaisir de rencontrer, de poser des questions à Claude et à Larry à l'occasion de la création de la nouvelle lecture du Dragonfly of Chicoutimi. Comme je connais et Claude et Larry, vous allez me permettre de les tutoyer pendant la rencontre, sinon on va être mal à l'aise tout le monde ensemble, les trois. Et c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, je suis vraiment content de vous présenter ces deux artistes-là qui ont consacré toute leur carrière au théâtre, vraiment, sauf de rares incursions en dehors du monde théâtral. C'est vraiment deux artistes qui ont fait le choix de la scène. Autant, je vais vous les présenter, donc vous allez voir l'ampleur de leur réalisation. Donc, Larry Tremblay, est un écrivain, metteur en scène, acteur et spécialiste de Kathakali, danse théâtre qui a étudié lors de nombreux voyages en Inde. Il y a une production théâtrale assez abondante et assez singulière, une écriture très singulière et très, je dirais, vertigineuse. Donc, il a écrit, entre autres, La leçon d'anatomie, Ogre, The Dragonfly of Chicoutimi, Le génie de la rue de Rolette, Les mains bleues, téléroman, Cornemuse, Le ventriloque, Panda Panda. Donc, il écrit aussi des théâtres, des textes pour l'enfance et la jeunesse et l'histoire d'un cœur. Bon, je ne mentionnerai pas tous les prix qu'il a reçus parce qu'il a été primé à plusieurs occasions. Ses textes sont joués un peu partout dans le monde. Il me disait qu'il arrivait de Vienne où un de ses textes était lu dans un festival là-bas. Quel texte?
Abraham
Lincoln va au théâtre. Et donc, ce texte-ci de Dragonfly of Chicoutimi qui a été créé lors du Festival de théâtre des Amériques en 1995 a été donc créé par Larry lui-même en tant que metteur en scène et joué par Jean-Louis Millette. Et maintenant, c'est créé en 2010 par Claude Poisson avec sa compagnie, le Théâtre Pape. Alors, Claude Poisson est principalement un metteur en scène, aussi auteur, également à l'occasion comédien, il peut être très bon. Je l'ai vu dans Poor Superman de Brad Fraser. C'était assez terrifiant comme interprétation d'un homme désespéré. En fait, c'était très bon. Et donc, il est fondateur du théâtre Pape, à l'origine Théâtre Petit à Petit, qu'il co-dirige maintenant avec Patrice Dubois, un des comédiens dans le spectacle Dragonfly. Donc, il a écrit. Il est bon. Et aussi une activité. On en parlera parce que ça m'intéresse. Dans les deux cas, Claude et Larry enseignent régulièrement dans les institutions théâtrales québécoises. Larry vient de terminer après je sais pas combien de temps à l'école supérieure de théâtre. 25 ans d'enseignement à l'Université du Québec à Montréal, à l'École supérieure de théâtre du Québec, parce que ça a changé en cours de route et c'est pas encore tout à fait inscrit. Alors, les deux, donc, régulièrement côtoient une relève théâtrale, se frottent à de nouvelles idées, à de nouveaux talents, et c'est un aspect, je pense, que de leur pratique qui est très intéressant. Et quand on regarde le spectacle, on voit qu'il y a quand même une certaine jeunesse qui est présente dans leurs travaux. Alors, Larry, donc, tu écris du théâtre, mais et je sais qu'à l'époque, j'avais pas vu le spectacle, mais tu avais été interprète pour Provincetown Playhouse de Normand Chouarette, où tu interprétais tous les personnages. Donc, je connais pas vraiment ton parcours. Je sais que tu écris beaucoup du théâtre, de la poésie, du roman, mais le côté scénique des choses, je connais moins ça. Donc, ton parcours théâtral, je serais curieux que tu nous en parles.
Vraiment très curieux.
Oui, oui, oui. Je suis sûr que c'est curieux, en tout cas.
Ben, j'ai commencé par faire de la musculature.
Oui, très bien.
Non, c'est pas vrai. Je pense que si on retourne très loin, donc à l'enfance, je me suis d'abord défini comme un écrivain, vers 12 ans ou 13 ans. J'ai été influencé par Tintin, comme à peu près beaucoup de personnes à cet âge-là. Et des livres pour l'enfance, mais très très vite j'ai passé de Tintin à Marcel Proust. Ça a pas pris de temps. mais le hasard de la vie a fait que je suis devenu acteur. Théâtre expérimental. À l'époque ça existait. Et
ça existe plus?
Ben si, mais au Québec on n'appelle plus seulement ça théâtre expérimental, mais à l'époque il y avait vraiment un chapeau théâtre expérimental. Il y avait Au Canada, en fait, il y avait trois troupes de théâtre expérimental qui recevaient des sous. Il y avait La Veillée, qui existe toujours, le Theatre's Labs à Toronto, et nous, à Jonquière, Théâtram. Alors, c'était le fameux triangle expérimental du Canada. Moi, j'avais 20 ans, j'ai commencé donc mon entraînement d'acteur au sein de cette troupe, qui était très originale, très étrange, très excentrique, et qui s'est influencé beaucoup par les travaux de Grotowski. Artaud, Grotowski. Donc, ça a été mes premiers maîtres. C'est pas que j'ai travaillé avec eux, mais les ayant lus et les ayant été entraînés en fonction de leurs pratiques et leurs théories, disons que j'ai commencé avec vraiment pas avec le théâtre traditionnel. Or, il se trouve que très très rapidement, avec cette troupe Théâtram, je suis allé en Inde parce qu'on tournait en Inde une pièce. Et sur place, j'ai eu un grand coup de foudre avec le Kathakali, qui est une danse théâtre du sud de l'Inde. Et j'ai consacré 5 ans de ma vie à étudier ce Kathakali, qui est, selon moi, une école de théâtre, une des plus exigeantes au monde. Et j'ai passé 10 heures par jour là-bas en Inde à le faire, à le travailler. Et ça m'a donné mon école. Parce que moi, j'ai pas fait l'école nationale, ni le conservatoire. Je suis un autodidacte, plus cette formation classique de l'Inde. Alors, et toute ma pratique a été influencée par la formation de l'acteur en Orient. Mm-hmm. Et ensuite, je suis devenu professeur très, très tôt, à l'âge de 26 ans, ce qui m'a amené
professeur de théâtre,
à former des acteurs. Et j'ai donc continué à être acteur, à faire les mises en scène, mais le professorat augmentant chaque année, puisque au départ, il y avait le bac, ensuite il y a eu la maîtrise, ensuite le doctorat, donc j'ai eu de plus en plus de charges. J'ai laissé de plus en plus l'aspect acteur. La mise en scène, j'ai essayé de tenir le fort le plus longtemps possible. J'en ai fait une quinzaine. La dernière remonte à 3-4 ans, 4 sous. J'ai monté un de mes textes. Et j'ai finalement... me suis concentré plus sur l'écrivain que j'étais très jeune. Et j'ai continué à écrire beaucoup de théâtre et aussi romans, essais et des choses comme ça. Et puis voilà, donc mon parcours, si tu veux, c'est... Je suis un homme de théâtre. Tout ce que je connais dans la vie, c'est le théâtre. Je disais à quelqu'un, il y a quelques jours, quand j'étais en Autriche, que tous les gens que je connais, c'est à cause du théâtre. À part mes parents, évidemment.
Et donc, juste pour être certain, donc tu as passé 5 années consécutives en Inde?
Oui, mais pas à temps plein. C'est-à-dire j'allais chaque année, passais 4 mois, mais en revenant au Québec, je m'entraînais tous les jours. Donc, c'était quotidien. Sinon, on ne peut pas apprendre le Kathakali. Il faut vraiment le faire tous les jours.
Et c'est comme ça que le travail de Kathakali, tu as voulu l'appliquer dans le spectacle Provençal Playhouse?
C'est le metteur en scène à l'époque, parce qu'en fait, on l'a créé au premier FTA en 85. Donc, j'ai comme une histoire avec le FTA, 85, 95 et 2010. Je fonctionne par 15 ans, j'ai l'impression.
Donc, dans 2025, tu diriges peut-être le festival.
C'est ça. Le metteur en scène, sachant que je faisais du Kathakali, m'a demandé de lui en montrer un peu. Puis, ça l'a passablement ébloui. Et puis, finalement, j'ai utilisé des chorégraphies et des codes du Kathakali pour jouer Provincetown, que je jouais à peu près tout seul. 2h20 tout seul en scène, c'était quelque chose. Donc, mais à l'époque, étant jeune, c'était assez... Enfin, je ne le ferai plus, là, mais à l'époque, quand on est jeune, on y va tête baissée.
Et tu as commencé donc à écrire du théâtre, ta première pièce, La leçon d'anatomie?
Non, ma première, c'est une pièce que j'ai écrite à 18 ans, Déclic du destin, que j'ai joué. Et, en fait, j'ai installé ma carrière avec ce texte. C'est un texte qui raconte l'histoire d'un homme qui perd les morceaux de son corps. Donc, j'appelle toujours le déclic du destin comme ma pièce matricielle. J'ai l'impression que toute l'œuvre que j'allais faire était déjà inclue dans ce déclic du destin, que j'ai repris il y a 2 ans avec Carl Béchard. Au lieu d'en faire un solo, on en avait fait un duo. Et on l'a repris à l'Espace Libre il y a 2 ans et l'an passé au Périscope à Québec. J'avais envie de revisiter le texte comme acteur. Cette fois-ci, j'ai été dirigé par Francine Alpin. Et j'étais pas metteur en scène, mais qu'acteur.
On va revenir plus tard à des choses plus spécifiques de ton parcours. Claude, bon, j'en sais des bribes, mais quand même, voilà, je sais que tu es formé comme comédien. Mais ouais. Vas-y, raconte-moi ton parcours.
À la base, je viens d'une formation de je dirais, de collèges classiques, sur les derniers 1000 des collèges classiques. Je me suis plongé très rapidement en théâtre amateur, à peu près comme tout le monde que ça intéressait. Disons que j'ai commencé à m'intéresser au théâtre en 1968, alors que Michel Tremblay jouait Les Belles-Sœurs. Mais j'ai pas vu Les Belles-Sœurs en 68. Et puis à partir de ça, je me suis retrouvé très vite dans la position de metteur en scène, parce que dès la première pièce en théâtre amateur, le metteur en scène qui nous avait comme dirigé dans un UNESCO était très dictateur et désagréable, et tout le monde l'haïssait. Fait que l'année d'après, la même compagnie amateur a dit « on va changer de metteur en scène », et c'est là que j'ai fait mes premières armes, et puis que je me suis dit « c'est vraiment là que je veux être en théâtre ». Et quelques années plus tard, je me retrouvais à l'Université du Québec comme étudiant au module d'art dramatique. Donc, formation à la fois comédien, mais aussi très général, très critique, très pédagogique. Un peu, je me promenais des cours pratiques aux cours théoriques avec peut-être une tendance à préférer la pratique, mais me disant que la théorie allait quand même me nourrir. Et en sortant de l'université, j'étais très jeune, j'étais, je pense, le plus jeune du module d'art dramatique, et j'ai, après un an d'errance à travers, me demander un peu ce que j'allais faire, et le Théâtre des Deux Mondes, qui s'appelait alors La Marmaille, qui m'ont engagé comme comédien, pour une première production qui s'appelait « C'est tellement cute, des enfants ». Eh bien, tout de suite après, j'ai fondé le Petit à Petit, donc le Pape, très naïvement, et en me disant « bon, ben, on va faire du théâtre ». Ça a commencé par une adaptation de Brecht, le cercle de craie caucasien pour enfants, et peu à peu, de production, enfance, adolescence, café théâtre, toutes sortes d'espaces différents, et on s'est aperçu au bout de 4-5 ans qu'on avait vraiment une compagnie qui existait, qui pouvait peut-être appliquer pour des subventions, et qui avait, sans trop le savoir encore, quelle était cette ligne de pensée, mais qui avait quand même laissé de petites miettes de traces déjà à l'intérieur du jeune théâtre qu'on appelait à l'époque, avec l'Association québécoise du jeune théâtre, où j'étais très actif. Et le Pape a pris des ailes à force aussi d'aller chercher des gens sortis d'autres écoles, parce qu'à la base on était des gens de l'UQAM, et là on s'est René Richard Cyr, Denis Roy, Jasmine Dubé, qui était de l'École nationale, se sont joints à nous pendant quelques années, et on s'est vraiment enlignés vers le théâtre de création. Donc, notre principe était d'abord de créer des œuvres majoritairement québécoises. Il y a eu sur 65 ou 67 spectacles, peut-être 3 ou 4 exceptions, mais c'était vraiment créer des œuvres québécoises. Avec un travail qui, à la base, au début, c'était vraiment, si on partit du principe de création collective, où tout le monde avait un peu tous les chapeaux, ça nous a permis de parfaire un peu de déterminer nos forces, puis d'exprimer mieux nos désirs. Et c'est là que, d'écriture à la mise en scène, je me suis promené en délaissant lentement l'acteur. Voilà. Et puis moi, j'ai fini par faire beaucoup de mise en scène à partir de 1987-8. Et c'est vraiment ce qui a pris possession de toute ma vie. Les autres métiers sont très importants pour moi, l'écrivain, l'enseignant, le comédien aussi, mais ils sont vraiment en parallèle, et beaucoup là pour nourrir le metteur en scène. Voilà, ça c'est à peu près le parcours.
Donc, autant à l'intérieur du Théâtre Pape que dans ta pratique dans d'autres théâtres, parce qu'on est ici beaucoup pigistes, et donc on est appelé à travailler un peu partout, donc tu as vraiment abordé... Tu es un metteur en scène de texte? d'abord et avant tout.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un qui te passionne pour les situations dramatiques, les mots, les univers proposés, suggérés par les auteurs. Donc, autant au Pape, tu as créé vraiment beaucoup d'auteurs, là, Louise Bombardier, Jasmine Dubé, Jean-Frédéric Messier, Renal Robinson, Geneviève Billette, Fanny Britt, François Godin, François Destourneau, Jonathan Arnois, Mathieu Gosselin. Mais tu as aussi, donc, touché Marivaux, Pirandello, des auteurs comme Elisabeth Egloff, l'américaine, Yasmina Reza, Kobo Abil, japonais. Donc, il y a vraiment différents répertoires qui t'intéressent.
Ben, en fait, c'est drôle, faisant le bilan, je me suis rendu compte que les années 90 ont vraiment été les années pour moi où j'ai plongé dans le répertoire. J'ai fait comme, j'ai mis en pratique ce que j'avais étudié quand j'étais étudiant de justement, Marivaux, Pirandello, tout ça. J'ai voulu Musset, j'ai voulu en faire, j'ai voulu en monter, j'en ai profité, j'ai plongé là-dedans, j'ai eu des offres, chanceux. Que j'étais. Alors, ça m'a permis de le faire. Et depuis ce nouveau millénaire, j'ai à peine retouché au classique et même au théâtre américain. J'ai vraiment, depuis l'an 2000, depuis 1999, je pense à deux exceptions près, je n'ai fait que de la création québécoise.
Justement, parce que donc dans ton parcours, le parcours de la compagnie Théâtre Pape, il y a vraiment une rencontre fertile avec l'univers de Larry. Donc, avec Ventriloque, en 2003, je pense, 2001, avec Ventriloque. Ensuite, avec Abraham Lincoln va au théâtre, et en 2008, et tout récemment, le Dragonfly. Et c'est assez beau de voir cette rencontre-là entre l'univers de Larry et ton univers personnel. Comme metteur en scène, on cherche quoi quand on cherche un texte? Et comment est-ce qu'on pense que le texte qui est devant nous est peut-être quelque chose qu'on peut investir? Ça s'est passé comment pour la rencontre avec Larry?
Bien, ça commence... les choses partent souvent de... Moi, ce qui m'intéresse, en quelque part, c'est les choses ardues, difficiles, qui m'intéressent, mais que je ne saisis pas complètement. Les premières rencontres avec Larry sont un peu ce qui a situé tout à l'heure. Je l'ai vu jouer dans Provincetown Playhouse. J'ai vu un truc de Catacali que vous aviez fait à l'Escabelle ou au Conventum. J'ai apprivoisé lentement Larry en me demandant, en tout cas en trouvant ça intéressant parce que j'avais l'impression qu'il repositionnait l'écriture et le jeu ailleurs. Et même si j'en saisissais que des bribes, en 1995, je crois, le Festival de les Francofolies de Limoges m'ont demandé d'aller faire un collage des textes de Larry Tremblay en lecture pour faire connaître l'œuvre de Larry. Et c'est là que j'ai pu d'abord plonger dedans. Il y avait quand même 5-6 textes de Larry dans ce collage. Et après est arrivé le Ventriloque. Le Ventriloque, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, on l'a fait en lecture, en travail de lecture. On est allé jouer ça dans différentes régions, Aquitaine, Bayonne, tout ça, avec une équipe de 4 comédiens où on faisait 4-5 textes québécois, dont le Ventriloque. Et vraiment, à avoir pu travailler cette lecture-là, l'avoir fait plusieurs fois, l'avoir entendue, au retour, je me suis dit... Je la fais. Je la monte, je la produis, je la mets en scène. Là, je commence à comprendre de quoi il en retourne, je pense, avec l'univers de Larry. Puis j'ai vraiment envie de sauter dans ce gouffre-là. C'est toujours difficile de savoir comment... Quand tu parles à Larry, c'est passionnant. Quand tu lis ses œuvres, c'est passionnant. Mais c'est aussi... très complexe parce que ça nous sort des... de toutes nos habitudes, nos patterns, ce avec quoi on a été formé. Comme il dit, toute son école, Artaud Grotowski a dû influencer énormément son écriture. Mais moi, c'est pas ça que je lis quand je lis Larry. Quand je me retrouve dans une pièce comme le Ventriloque, Abraham Lincoln, j'ai des codes à défaire, des codes à comprendre et je dois me débarrasser de toutes les manières de compréhension, mais je me répète, mais la façon de jouer un texte de Larry nous provoque à chercher en nous des zones bizarres, inconnues, intraversées. Et moi, j'avais comme envie de ça. J'étais rendu là, j'avais l'impression de piétiner. Larry est arrivé un peu comme un sauveur, Larry. Alors là, vraiment, ça a été... comment on attaque une œuvre de Larry? C'est une question un peu ardue, mais j'ai pas l'impression de pouvoir utiliser le même mode qu'avec d'autres pièces où on fait un travail de table. On doit absolument, avec Larry, faire un travail en plusieurs étapes et travailler très, très rapidement, ben très rapidement, assez rapidement dans l'espace et de faire des essais, faire des tentatives, proposer des modes de jeu qui vont du psychologique au clown, qui passent par toutes sortes de chemins. Et à un moment donné, dans la liberté, dans le ludique, dans l'abandon total, on finit par trouver des étincelles qui oscillent entre un degré d'irrévérence, un humour assez implacable et une émotion qui naît tranquillement. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Puis Larry est extraordinaire parce que quand tu l'invites à venir voir une répétition, tu peux lui montrer la panoplie de scène, là où t'es rendu, et il est pas... il est d'une précision, il est capable de dire... Ça, c'est ça que j'ai écrit. Ça, c'est pas ça que j'ai écrit. Ça, il y a ça d'intéressant parce que ça exprime bien ce que je voulais dire. Et à partir de ça, nous, le chemin, il est très, pas facile, mais il se précise énormément. Puis à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans une autre étape. Mais les trois textes de Larry que j'ai montés, ça se fait pas en trois mois.
Larry, t'écris des textes de théâtre, puis même les textes qui sont pas théâtraux impliquent tout le temps un vertige. En tout cas, à mon avis, c'est-à-dire qu'une réalité en cache une autre, en cache une autre, en cache une autre. Il y a vraiment un effet de spirale qui nous amène dans des zones d'incertitude. Donc, on n'a jamais, je pense, d'emprise réelle sur les personnages parce que il y a vraiment des zones qui se déclenchent. Plus on fouille, je pense, ton univers, moins les personnages répondent. Et je pense que c'est ça qui est comme intéressant. Mettre un œil, donc, de metteur en scène aussi. Et c'est quand t'écris, est-ce que déjà tu vois un aspect concret, une application concrète de ton écriture, ou ça demeure vraiment quelque chose de purement virtuel?
Alors, en fait, j'ai une position philosophique d'abord. C'est-à-dire que je considère qu'on n'est jamais ce qu'on est. Donc, en écrivant des personnages, ils ne sont jamais ce qu'ils sont. Et ça se complique, donc. La personnalité, on en a tous une, mais on est capable de la défaire, de la détruire ou de la contredire. Mais au fil des ans, une personne se fixe dans des habitudes, des façons de parler, des tics, des croyances, des volontés, des désirs. Mais on a toujours la liberté de les défaire et de dire « je ne suis plus ceci, je suis cela ». Ça, c'est une position philosophique que j'ai eue très tôt, vers 17-18 ans, suite à de longues lectures de Jean-Paul Sartre, par exemple, « L'être le néant ». Ensuite, j'ai reconnu ça dans la philosophie plutôt orientale, où on est moins sur la dualité, c'est-à-dire, dans notre société judéo-chrétienne, c'est le corps et l'âme, c'est une dualité. En Inde, c'est que derrière le corps, il y a un autre corps, et de ce corps-ci, il y en a un autre, et un autre, et un autre. Et pour accéder à un autre corps, ça prend une ascèse, ça prend des épreuves, ça prend une discipline, ça prend une rigueur, ça prend une critique, ça prend une réflexion, ça prend une vision. C'est ça que j'ai appris en Orient, ou du moins en Inde. Ça correspondait un petit peu à ce que je lisais dans l'existentialisme de M. Sartre à l'époque, qui était déjà vertement dépassé, parce que moi, j'ai connu ça après le boom de l'existentialisme, et aujourd'hui, ça fait un petit peu poussiéreux, mais n'empêche que c'est greffé sur une position philosophique assez forte, sur le fait que ce qu'on appelle l'ego, c'est une construction. On ne l'a pas en naissant, l'ego. Et si on est sensible à la liberté, on est sensible au fait qu'on peut le modifier. Ou encore, si on n'est pas sensible, on peut se faire avoir par son propre ego. Donc, ça questionne la problématique de l'identité. Et quand on est Québécois, ben, on a en partant une interrogation importante à se dire sur qu'est-ce qu'être Québécois. Donc, je pense que mes textes sont très, très québécois parce qu'ils questionnent toujours l'identité. L'identité nationale, l'identité sexuelle, l'identité psychologique, etc. C'était quoi ta question? Je sais pas, j'ai peut-être répondu.
Non, c'est bien. Oui, oui. Ben, donc, ton postulat, c'est que tu écris un théâtre qui ne cherche pas à décrire une réalité.
Mais
des réalités qui sont multiples, où des personnages peuvent tout le temps être... ma question, c'était, quand t'écris, est-ce que tu vois une application concrète, comme toi aussi, t'es metteur en scène, est-ce que déjà tu vois une application concrète de ce que pourrait être ce texte-là? Ou bien t'as une liberté où tu t'astreins à ne pas rien prévoir d'avance pour après ça, quand le relais est pris par quelqu'un d'autre?
En fait, quand j'écris, il faut que je me sente très, très libre. Donc, j'aime bien le mot ludique. D'ailleurs, j'ai développé une approche pour former des acteurs que j'applique à l'écriture, que j'appelle anatomie ludique. Et parce que pour moi, le corps, c'est très, très important. Tout à l'heure, Claude disait que quand il expérimente mes textes, il va très vite dans l'espace, parce que dans le fond, les vraies réponses sont dans le corps des comédiens et des comédiennes. Il y a toujours du corps, du corporel, du gestuel dans mes textes. Tu le confirmes? Donc, j'écris... En fait, je pense à des corps plutôt qu'à des personnes ou des personnalités. Donc, mes textes sont pas psychologiques du tout. Ils sont corporels. Mais en même temps, ils sont philosophiques au sens qu'ils posent la question de la construction de la personnalité. Mais je trouve que le théâtre est un endroit extraordinaire pour réfléchir sur ce qu'est un homme, une femme, et donc une société, puisque un ensemble d'hommes et de femmes forment une société. En même temps, le théâtre, c'est une forme de divertissement. Et j'ai bien appris ma leçon avec Brecht, parce que j'ai fait mon mémoire sur Brecht. Et lui-même trouvait ça très important, que quand on va au théâtre, on a une forme de plaisir quand même. Donc, dans mes textes, il y a beaucoup d'ironie, d'humour, d'irrévérence, de contrepoint, de rupture. C'est en général extrêmement orchestré, très musical. Et il y a toujours des pièges et des chausse-trappes. Et c'est un peu comme un savon mouillé qui nous échappe.
Est-ce que tu prends plaisir à les fabriquer ou c'est à ton insu que ces pièges, ces chausse-trappes-là?
Je pense, étant jeune auteur, c'était à mon insu. Mais ayant été prof très longtemps, j'ai dû réfléchir. Et à un moment donné, on m'a demandé de réfléchir sur mes textes. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait quand même tout un fonctionnement caché, camouflé, qui faisait en sorte que ces textes étaient théâtraux. Mais ils ne sont pas évidemment théâtraux, c'est-à-dire que beaucoup de gens les lisent et ne voient pas ce que ça va faire sur scène. Alors évidemment, c'est le rôle du metteur en scène d'en faire une œuvre théâtrale percutante, performative. Il y a de mes textes qui sont peut-être plus accessibles à la lecture, mais on est toujours très surpris de la performance du texte, parce que c'est vraiment des machines théâtrales. Pour moi, le ventriloque, par exemple, c'est vraiment une machine théâtrale. Ça fonctionne comme un vaudeville, finalement, sauf que ça n'a pas le même objectif. Mais il y a un moteur, parce que une pièce de théâtre, c'est avant tout une forme d'action. Et il y a un moteur dans mes pièces, mais c'est pas évident de le trouver. Je pense que Claude les a très, très bien trouvés dans les trois textes qu'il a montés.
Justement, il y a différents metteurs en scène qui ont concrétisé tes univers. Dont, moi, une fois. Et c'est vrai que ça pose des défis, parce qu'à la lecture, il y a une espèce de plaisir vertigineux. Et après ça, il faut le concrétiser avec un corps qui est lourd. Et comment est-ce qu'on peut, comme, accoter la liberté que tu insuffles à ton univers avec avec trois dimensions, un décor, ou ça prend jusqu'à quel point ça prend un décor ou ça prend pas de décor? Parce qu'en fait, c'est beaucoup la pensée qui fuit à mettre en scène. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand tu as vu Claude avec le ventriloque et par la suite avec Abraham et maintenant avec Dragonfly, est-ce que tu pourrais me commenter un peu la rencontre que tu as avec un metteur en scène quand toi, tu peux être dans un milliard de possibilités de concrétisation. Et là, tu as la sensibilité de Claude, sa façon de voir le théâtre, de faire le théâtre. C'est quoi cette rencontre-là? La première fois, ça a été le ventriloque. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que ça t'a appris des choses sur ta pièce?
Évidemment. Et c'est comme hier soir avec le Dragonfly. L'ayant moi-même monté il y a 15 ans, j'étais en position un petit peu étrange. Parce que j'entends encore très, très bien la partition que j'avais installée à l'époque. Elle s'est pas effacée de mon cerveau du tout, du tout. Mais la force de sa mise en scène fait en sorte que j'entre dans son univers totalement et que je voyage avec ce qu'il a fait du texte. Il l'a vraiment réorchestré. En fait, je pense qu'un aspect important de mes textes, c'est la musique, la musicalité, le rythme, les contrepoints, les pauses, les silences. Claude, je pense, a vraiment saisi ça. Surtout en faisant une œuvre chorale, il en a fait une œuvre encore plus orchestrée, je pense. Mais j'ai pas répondu à ta question.
Non. Tu as redéfini le personnage.
Non, mais en fait, quand Claude a travaillé sur le ventriloque, moi, en fait, je me considère comme un enfant quand je vais voir un de mes textes, même en répétition. C'est un cadeau. Donc, j'arrive pas là. Je suis jamais trop angoissé et j'ai comme 30 ans aussi d'expérience en travaillant avec des jeunes acteurs. Donc, j'ai appris à décoder ce qui se passe dans le corps des acteurs très rapidement aussi et à voir la signature d'une direction d'acteur sur le corps de l'acteur. Ça, parce que de bons directeurs d'acteurs, on sent dans le corps des acteurs, dans la façon qu'ils disent le texte. Avec Claude, je trouve ça vraiment très précis, très clair aussi. Il y a une signature. Donc, c'est un metteur en scène, mais c'est aussi un directeur d'acteur. Et donc, la fusion des deux fait en sorte que mes textes deviennent extrêmement percutants. Enfin, moi, je trouve, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais moi, je le pense profondément. Là, j'ai vu 3 exemples et ça marche.
Mais je suis pas auteur. Quand tu vas voir une mise en scène d'un de tes textes, est-ce que tu te cherches toi dans le texte qui est là, ou tu cherches aussi le metteur en scène et son univers à lui? Qu'est-ce que tu espères quand tu vas voir une production d'un de tes textes?
Ben, j'espère être étonné. J'espère aussi reconnaître le moment où moi j'ai écrit les répliques, par exemple. Il y a un phénomène étrange qui se passe, c'est-à-dire que moi j'écris avec mon oreille. J'entends. Donc, c'est interne. Et je développe ce que j'appelle une plaque sensible. Or, c'est comme une résonance. Et quand je vois un travail en répétition, si ça ne résonne pas, là, j'ai comme un système d'alarme. Ding, 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 qui me dit, oups, c'est pas totalement ça, ça pourrait être ça, mais il manque ceci. Donc, c'est même pas intellectuel chez moi, c'est vraiment une plaque sensible. Et c'est dû au fait que je me souviens, ou que c'est mon corps qui se souvient, de ce qui s'est passé au moment où moi j'ai écrit le texte. C'est vraiment une question de mémoire corporelle. Moi je crois beaucoup à ça, parce qu'on enregistre tout est dans notre corps, et la grande difficulté, c'est d'y avoir accès. Il y a toutes sortes évidemment de techniques, d'approches, de méthodes qui nous permettent d'avoir accès à du connu, à du vécu, mais il y en a une grande partie qui va rester toujours dans le noir, dans l'obscur. Or, un écrivain, un auteur, un créateur essaie de faire jaillir ce butin et de le mettre en forme dans un tableau, une symphonie ou une pièce de théâtre. Alors, quand il y a résonance, quand ça, c'est comme un gong qui envoie des vibrations, ben, j'ai rien à dire parce que je dis ça marche, ça fonctionne. Et ça peut être totalement des esthétiques différentes, très même contradictoires, mais ça peut quand même résonner avec la plaque sensible. Donc, c'est pas une question d'esthétique selon moi, c'est vraiment une question de faire en sorte que le texte se met à sonner, à résonner comme un instrument de musique. Le piège que je reconnais le plus souvent, c'est la psychologie. En général, on veut trop motiver mes textes ou motiver mes personnages à agir, et ça alourdit tout le processus. Et ça enlève la musicalité ou le rythme. Donc, il faut faire. Enfin, c'est ce que je répète souvent aux metteurs en scène, de pas trop. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre pourquoi ils agissent, mais dans le rendu, il ne faut pas le faire comme si c'était une pièce psychologique. Est-ce que ça correspond un petit peu à notre travail?
Ce qui est drôle dans l'œuvre de Larry aussi, c'est le fait que on trouve ça complexe, on trouve ça tortueux, on entre là-dedans et peu à peu, on se rend compte que énormément de choses sont construites à partir de répétitions, de stéréotypes, de clichés, d'évidence, tout ce qui tout ce contre quoi il se bat, dans la forme, ils sont là, ils existent, et souvent, on se rend compte, les comédiens, les metteurs en scène, on s'aperçoit que, je vais essayer de donner des exemples, ça sert à rien de faire sonner une cloche puis d'y trouver une cloche d'une sonnette de porte puis d'y trouver un son particulier. C'est ding-dong. C'est ça une cloche. Alors, pour défaire tous ces stéréotypes-là, faut retrouver ces clichés-là. Et puis ça, on les trouve beaucoup en cours de route parce que si on les établit au début, on se tient là, on reste là. Alors, faut plutôt plonger dans le dangereux, dans l'insolite, dans l'étrange, dans sa spirale, et peu à peu, pour se retrouver et se donner des points de référence et faire en sorte que le public nous suive, il y a toujours ces espèces de points d'appui, de ces points d'ancrage qui sont le réel, notre identité, les choses qu'on connaît, qu'on sait à l'évidence. Et ça, c'est une ponctuation extraordinaire qui nous permet, après ça, d'aller en contrepoint. Fait que je sais pas si je suis clair, là, mais...
Mais justement, donc, tu viens de travailler pendant 5-6 mois sur The Dragonfly avec toute ton équipe, même plus que ça, je pense. Entre la première répétition et le travail qui s'est concrétisé dimanche soir à la première, c'était quoi les défis? Parce que, bon... Est-ce qu'au départ, tu avais vu la création faite par Larry et Jean-Louis Miette?
Oui, c'était quand même loin, parce que moi, je l'ai vu qu'une fois, au contraire de Larry qui l'a monté. Et puis quand j'ai relu la pièce, j'ai redécouvert une pièce que j'avais pas oubliée, mais j'ai vraiment plongé dedans pour vraiment la deuxième et première fois, d'une certaine manière. Puis à la première répétition, la première lecture qu'on a fait...
Avant d'arriver à la première lecture, parce que c'est quand même étonnant que ce texte-là qui a été écrit pour un interprète... En fait, ça ne dit pas que c'est écrit pour un interprète, c'est un texte. On sait que ça a été écrit pour un interprète parce que ça a été écrit par un interprète. Mais donc, toi, tu le lis, tu as envie de plonger là-dedans, et c'est quoi le processus qui fait que ça se transforme en œuvre pour cinq interprètes?
C'est banal, j'aime pas tellement les one-man shows. J'aime pas tellement les solos, première des choses. Et ça fait 4-5 ans, sur certains spectacles dont je voudrais me déposer la tête, Rouge Gueule, un truc que j'ai fait à l'École nationale qui s'appelait Electronic City, d'un auteur allemand, Falk Richter, où je travaille le cœur, la musicalité, l'oratorio des choses. Puis j'avais l'impression qu'avec The Dragonfly, je pourrais peut-être, pour mettre un point final, mais conclure quelque chose, aller plus loin là-dessus. D'où l'envie de pas travailler le monologue comme un monologue, mais de travailler le monologue comme un quintet. Mais que ça aurait pu être 7, 6, 5, 4, tous les choix étaient possibles. J'ai commencé en me disant, première lecture, soyons 5 comédiens autour de la table, parce que c'était des comédiens avec qui j'avais le goût de travailler. Je savais qu'ils seraient disponibles à ce genre de travail, parce que faut vraiment et un abandon et une rigueur, et aussi se faire mener certaines journées comme des marionnettes sans trop se poser la question pourquoi je fais ça. Pourquoi je pose tel geste, pourquoi Claude me demande ça. Faut le faire, et à un moment donné, il y a des choses qui se dessinent. Alors, ça prend, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les acteurs qui sont à l'aise là-dedans. Alors là, on s'est retrouvé 5 acteurs avec 5 accents complètement différents. L'un vient du Lac-Saint-Jean, l'autre presque franco-ontarien. Il y en a un qui est né en Iran et qui a vécu à Toronto. L'autre est de Sorel. Bon, alors tout le monde avait des couleurs très différentes. Larry est venu à cette lecture-là. Il a friqué un peu d'ailleurs sur... puis il y avait dans son oreille Jean-Louis. Et puis là, il entendait les différents accents qu'on n'avait pas travaillé, qu'on savait pas encore où on irait. Mais c'est... Alors là, c'est juste d'entendre le texte et de lentement se positionner sur les bonnes questions. Et ce ne sont pas toujours évidentes à trouver. On a tendance à aller vers les questions les plus angoissantes, alors que des fois, c'est juste à côté. Mais ça a été ça. Et c'est un travail de fou, de moine, mais en même temps, c'est un travail... où il y a les moments où, je vous dirais, les comédiens ont éprouvé un plaisir fou à faire ça, et les moments où il y a un mois et demi, quand ça devenait une partition qu'il fallait refaire, recommencer, changer. Les comédiens étaient épuisés, perdus et un peu, pas inquiets, mais un peu, quand allons-nous retrouver le plaisir? Et voilà, il s'est retrouvé il y a un mois, à peu près.
Et quand Claude t'a dit « Ah, j'ai envie de travailler sur le Dragonfly, mais avec 5 interprètes », c'était quoi ta réaction?
Ben, j'étais soulagé. Parce que, étant donné ce que Jean-Louis a fait à l'époque, la trace qu'il a laissée, et le fait aussi qu'il soit malheureusement décédé, encore, parce qu'il l'a joué encore, il est décédé quelques jours après, ça a toujours été un problème par la suite, un problème, enfin, parce que j'ai quand même eu des offres qui pourraient faire Gaston Talbot après Jean-Louis Millette.
Immédiatement après pour poursuivre la même production?
Non, mais quelques années après, et puis les gens m'en parlaient souvent, puis quel acteur oserait le faire, ou voudrait le faire, ou pourrait le faire. Mais finalement, quand Claude m'a proposé avec 5 comédiens, ben moi, j'ai trouvé ça génial comme idée parce que ça réglait le problème. Ça réglait le problème tout de suite. Donc, non, ça, j'étais très heureux de la proposition. Ça m'a pas fait peur du tout. Ben, ça m'a intrigué parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment rendre encore plus complexe le projet. Mais je pense que Claude aime ça.
En lisant beaucoup sur lors de la création du texte en 95, on parlait beaucoup d'identité québécoise, on parlait beaucoup d'un geste politique, d'une interprétation politique de ce Québécois-là qui se réveille et qui parle anglais. Est-ce qu'en 2010, cet aspect-là politique a été une question de mise en scène? Est-ce que c'est encore un texte politique?
Ben pour moi, c'est la base de ce texte-là. C'est la chose la plus importante. Le fait de choisir ce principe cette anecdote, si on peut le dire ainsi, le fait que Gaston Talbot nous parle en anglais, qu'il s'appelle Gaston Talbot, qu'il vient de Chicoutimi, qu'on l'a considéré comme aphasique pendant un certain temps, qu'il était silencieux, et qu'en fin de compte, au bout du rêve, il s'est réveillé, il ne parlait qu'en anglais. Je veux dire, juste ce choix-là, pour moi, il est comme politique. Et à partir du moment où il est fait, on peut se promener autour, on peut creuser vers l'intérieur, on peut y ajouter n'importe quoi, mais il restera toujours que le noyau, il est là, il est fort, il est présent, il est puissant, et je vois pas comment un metteur en scène pourrait l'annihiler. Même vouloir l'éliminer, il réussirait pas. Je pense pas.
Dans un contexte québécois.
Dans un contexte québécois.
Parce que, est-ce que ce texte-là a été monté en anglais, oui. Pas traduit, mais en anglais...
Oui, à Toronto. Toronto, ouais. Il y a quelques années, oui. Oui.
Et on l'interprétait comment?
De façon très politique.
OK.
En fait...
Regarde du Québec.
Oui, mais même... Ce qui m'a étonné, c'est que ça a été fait, je pense, il y a 5-6 ans à Toronto. La réception critique a été extraordinaire, mais la plupart des articles parlaient de politique. Alors que quand on l'a créé ici à Montréal en 95, la réception était extraordinaire aussi, mais les critiques parlaient moins de politique que ce que les journalistes de Toronto. C'est quand même assez... Mais en fait, j'essaie de comprendre pourquoi, et je pense que c'est dû au fait que Jean-Louis a fait une performance d'acteur tellement éblouissante que on a plus été sensible au drame humain d'une certaine façon. Alors qu'à Toronto, je veux pas diminuer le travail de l'acteur, mais c'était peut-être moins éblouissant, mais la pièce étant connue à l'époque, donc c'était pas une création, les journalistes ayant déjà lu sur la pièce, ben, ils savaient d'emblée que c'était un questionnement politique, une problématisation du phénomène linguistique ici, donc, et ils ont toujours ramené ça dans les papiers.
Mais c'est aussi le propre du journaliste de représenter un peu pour nous, que ce soit une main tendue, un clin d'œil ou un cri d'alarme, c'est quelque chose là-dedans, cette pièce-là. Pour un anglophone d'ailleurs au Canada qui le reçoit, il peut sentir probablement un peu comme une attaque. À à cause du contexte politique, à cause aussi de la médiatisation de ce contexte politique qui est toujours fait dans le sens de l'attaque pour moi, alors que ça peut être autre chose, ça peut être une réflexion, une communication, une information sur qui nous sommes, tout simplement, c'est de frapper à la porte, faire nous autres on se sent comme ça, on doit pas être tout seul dans le monde à se sentir comme ça, le contexte ici est particulier, mais on peut aller dans d'autres contrées du monde et je pense que ce problème d'identité, cette richesse identitaire est là, pareil. Alors, c'est sûr, là, on va aller présenter là des anglophones ailleurs au Canada. J'ai très hâte de voir la réaction et comment est-ce que c'est accueilli avec un peu de méfiance, ou au contraire, on est rendu ailleurs. Moi, je me dis que 15 ans après, on est rendu ailleurs. Suis-je totalement naïf? Je sais pas.
J'ai vu deux soirs de suite à Toronto. J'ai parlé avec des spectateurs et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait quand même plusieurs spectateurs anglophones, mais aussi allophones. Donc pour eux, ils se retrouvaient un petit peu dans la pièce aussi parce qu'ils étaient minoritaires à Toronto, parce qu'ils parlaient, je sais pas, iranien dans leur maison, puis anglais au travail. Donc ils avaient le même rapport conflictuel linguistique, même s'ils ne parlaient pas français. Donc, j'ai quand même parlé à quelques spectateurs qui me disaient qu'ils pouvaient se reconnaître dans ce drame linguistique-là aussi. Par contre, il y avait des visiteurs britanniques, je me souviens, qui étaient là et qui, pour eux, c'était plus une exploration poétique de la langue anglaise. C'est quand même différent. Ça dépend qui on est.
Et puis, est-ce que ça a été joué dans des pays qui ne sont pas anglophones, en anglais?
Non, ça a été joué en italien à Rome.
En quelle langue?
En italien. C'est une erreur de pitcher. Ah, OK. La libellula di Chicoutimi.
Alors, j'aurais peut-être envie d'ouvrir vers la salle. Il y a peut-être des gens qui ont envie de poser des questions à Claude et à Larry, soit séparément, soit ensemble, soit je ne sais pas quoi.
Karen a le micro.
Elle veut passer le micro pour qu'on entende les questions.
Merci pour le micro. Je voulais savoir, la division du texte, c'est fait avant la première lecture, déjà en cinq, ou au fil des répétitions, ou à quel moment c'est survenu pour diviser ça entre les acteurs, ou est-ce que, dès que je me trompe, puis tous les acteurs parlent en même temps? Là, alors,
J'ai commencé par diviser le texte en plusieurs tableaux. Je me disais, à chaque fois que j'avais comme l'impression qu'il y avait qu'on recommençait, « Let's go back to the dream » ou « That's not true », des phrases qui revenaient comme ça. Fait que ça a été un peu des possibles ruptures. Alors, j'ai établi une série de tableaux que j'ai changé en cours de route. J'ai fini par aboutir à 15 tableaux. Mais à chaque fois, je le faisais lire aux comédiens et on le lisait autour de la table. On faisait « on s'en vient, ça commence ». Même chose pour la division des répliques. Je suis parti avec cette idée d'un plus American way of life, l'autre plus la douleur de l'Indien, l'autre plus l'enfant dans un corps de vieux, l'autre plus qui allait jouer probablement un peu plus la figure maternelle et la modernité aussi, plus un qui était peut-être plus en un peu vers la psychiatrique. Alors, donc ça, mais je voulais pas que ça soit tel quel, là, mais ça déterminait quand même des choix de réplique. Et à force de refaire, relire, à un moment donné, je me souviens que Patrice a dit, là, Claude, à 10 répliques près, là, je pense qu'on est dans la bonne version. Et on est parti de celle-là. Et on a avancé avec celle-là. Mais je suis allé à l'instinct beaucoup. C'est sûr qu'il y a un peu de raison là-dedans, là, mais et jamais il faut que tout le monde en aille la même chose. Je savais que je donnerais un peu plus du texte de la mère à Daniel Parent. Probablement parce que c'est plusieurs fois que je travaille avec, puis j'avais le goût de le voir faire ça. Là, c'est tout.
Une question ici.
Oui, je voudrais comprendre
C'est là le bout que je disais qu'ils ont commencé à friquer un peu, c'est quand ils ont reçu les boîtes. Mais rapidement avec le scénographe, on a eu cette idée à un moment donné de les séparer, même si c'est quand même un quintet, il y a tout l'aspect du monologue, l'aspect de la solitude de cet être-là nous apparaissait plus pertinent à partir du moment où on les plaçait, on les séparait par des... C'est ça, dans des cadres dans des petites maisons. Ça posait une difficulté chorale qui, justement, allait probablement alimenter la rigueur, la force du cœur. C'est sûr qu'ils sont, c'est très, très exigeant pour eux. Techniquement, ils ont quand même travaillé énormément en dehors des cadres pour se timer. Ils travaillent à partir de respiration. Il y a des petits micros cachés dans les plafonds qui fait qu'ils entendent les moniteurs de chacun des autres comédiens pour vous dévoiler la magie, alors qu'on vérifie à tous les soirs avant, de façon à ce que s'il y en a un là qui entend pas, il est fait, hein, il est décalé, là. On l'a vécu à un moment donné en enchaînement. Il s'entendait pas, puis il est complètement décalé. Parce que les murs sont opaques. Alors, c'est une gymnastique. C'est vraiment une gymnastique, et en même temps, cette gymnastique-là, faut la faire souvent pour après ça retrouver l'âme qu'il y a au-delà de cette gymnastique et qui est nécessaire, parce que sinon ça va devenir des machines, c'est pas ça qu'on veut non plus. Alors c'est ça, c'est par partition de plusieurs instruments et essayer de trouver des virtuoses pour la rendre. Mais c'est ça c'était ça l'idée des cadres, c'était vraiment trouver la maison de chacun, où chacun a peut-être son monde, c'est son monde intérieur à chacun des Gaston Talbot. Oui.
Oui, moi je voudrais savoir quel impact ça a eu en Italie, le spectacle, parce que comme il est très contextualisé dans une géographie et une époque, voilà, je m'interroge un petit peu sur la vie d'un texte comme ça. Alors moi je suis belge, donc en Belgique on a plus ou moins les mêmes problèmes linguistiques, donc ça pourrait avoir un impact, mais je me demande ce que ça a fait en Italie.
En fait, je peux pas te répondre, parce que moi, bien naïvement, j'ai cru qu'on allait jouer mon texte avec les mots anglais, mais qu'on allait utiliser une syntaxe italienne. Et donc, parce que un peu de temps auparavant, on m'avait proposé le même projet au Mexique, mon texte, mais avec une syntaxe espagnole. J'ai cru que c'était la même chose. Je suis arrivé à Rome pour un événement quelconque et j'ai assisté à une pré-production, pas à la production comme telle. Et c'est là, le jour même, que j'ai vu que tout était en italien. Et c'est un peu surpris et je pouvais pas vraiment... faire une crise, dire non, vous n'avez rien compris, vous êtes fous, parce que c'était quand même un théâtre très très connu et des gens très sérieux et très professionnels, et je pouvais quand même pas... Ils l'ont pris comme ça. Donc, c'est un excellent acteur, mais moi-même, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il reçoit de l'histoire? Il manque une couche importante. Alors, c'est devenu probablement plus un drame qu'une pièce étrange et... enfin, je dis étrange, qui questionne la théâtralité. Je pense que cette production ne questionnait pas la théâtralité. C'était une bonne pièce de théâtre, mais il manquait ces couches qui font en sorte que on s'interroge, et qui renvoie un problème de société et d'identité. C'était plus le drame de Gaston Talbot en italien. J'ai donc pas suivi la carrière de cette production. Ils l'ont joué un mois. Ils ont fait quelques festivals en Italie. Mais c'est tout. Mais je sais pas. À mon sens, ça n'avait pas un grand sens. Je pense. C'est dommage, parce que ça aurait été très intéressant de voir Donc, l'anglais retravaillé à partir d'une autre structure langagière. J'aurais vraiment été curieux de voir ce que ça donne, parce qu'on me l'avait déjà proposé. On avait fait le Dragon, la production est allée jouer à Rome, et ça a super bien marché. Je pense que c'est parce qu'on l'a fait que des gens s'y sont intéressés. Et ils ont dit, ben, on va le faire nous aussi. Mais voilà. Donc, je suis désolé, je peux pas vous répondre.
Alors, d'abord, j'ai vu la pièce hier soir. Je dois vous dire que j'ai passé une bonne soirée. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que je vois à côté un auteur dramatique, un auteur de texte scénique. Donc, jusque-là, ça va très bien. Maintenant, ce qui me chagrine aussi, c'est de voir, vous avez répété plusieurs fois, mon texte. Et j'ai l'impression que vous pensez détenir la vérité de votre texte. Et je voudrais savoir, alors, sans vous attaquer, n'est-ce pas, mais je crois que depuis Barthes, et il y a longtemps, nous avons déclaré l'auteur mort. Il est certes revenu, mais avec aujourd'hui quand même une certaine, disons, humilité. Et je pense qu'il serait très, très encourageant pour l'avenir que l'auteur dramatique continue à exister, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas, puisqu'on a eu longtemps le texte au centre. Aujourd'hui, c'est davantage le texte scénique au centre. Donc, je suis très heureux de voir la réunion des deux, mais je souhaiterais quand même que l'auteur dramatique laisse toute latitude à l'auteur du texte scénique. Alors, bon, que la production en Italie soit nulle, c'est possible, je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont nécessairement fait quelque chose de différent, voyez. Enfin, voilà. Donc, peut-être que tous les deux, vous pourriez me dire ce que vous pensez entre le texte scénique, texte dramatique, quel est ce ménage. Voilà, merci.
Ben, il n'y a pas de problème, vraiment. Je veux dire, c'est un spectacle, il y a un texte. Avec le texte, on fait un spectacle. C'est tout. Ben, écoutez, j'ai enseigné la sémiologie à l'université, je dirige le doctorat, et je veux pas partir une discussion sur c'est un petit peu vide, là.
Mais est-ce que c'est possible d'écrire quelque chose et d'avoir après ça aucune attente par rapport à une production? Comme auteur, je pense qu'on inscrit des choses, il y a un réseau de sens qui est produit par l'auteur. Je pense que c'est normal d'avoir des attentes par rapport à être pris en relais de la bonne façon de la part du metteur en scène.
Ben, en fait, il faut pas être naïf. Moi, j'ai vu encore là une pré-production du Ventriloque en Italie, et c'était... Le metteur en scène avait absolument rien compris. Il avait fait de mon texte un texte sexiste. Alors, il avait complètement...
Ah, oui, okay.
Mais j'imaginais, Claude, que c'était sexiste. Je l'ai dit... on a le droit de dire son opinion sur ses propres, sur les textes qu'on, on a le droit, on est libre. Mais est-ce que j'ai prétendu cela? Ben, je crois que non. Enfin, moi, j'ai pas écrit un texte sexiste avec le ventriloque. Ben, c'est ma position. Ben, montez ma pièce et on verra bien.
voilà, d'abord, félicitations. J'ai un beau spectacle avec une belle rigueur. J'avais une question naïve. Je suis scénographe et j'ai travaillé il y a quelques années ici au Canada. On est plusieurs ici, personnes qui travaillons de France enfin, dans le théâtre de France, du Brésil, des États-Unis. On a vu vos spectacles, on a un peu débriefé. Et en fait, j'avais un sentiment, et j'aurais aimé avoir votre avis en tant que metteur en scène. Moi, j'ai retrouvé dans ce spectacle beaucoup de codes et de manières de faire du théâtre comme on peut le voir au Québec. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une volonté? Autrement dit, ma question, c'est comment est-ce que vous situez en fait votre travail de metteur en scène aujourd'hui à Montréal par rapport à ce qui peut se passer dans le monde? Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une famille? Est-ce que vous avez le sentiment de défendre une identité de metteur en scène? Est-ce que vous avez une impression d'utiliser des langages par rapport à une école, par rapport à des collaborateurs, etc.?
Question... intéressant, difficile à répondre. Ça fait quand même un moment que je fais ce métier-là. J'ai comme toujours... des fois, les gens me pose des questions sur la manière, comment je m'inscris, ma méthode. J'ai toujours beaucoup de difficultés à répondre parce que je suis vraiment né du travail collectif et complètement happé par la salle de répétition. Et je suis quelqu'un qui est curieux, qui est curieux de la planète, qui est curieux de ce qui se fait, de ce qui se vit politiquement, socialement et de ce qui se fait culturellement partout. J'ai beaucoup de difficultés à... J'ai comme l'impression de devenir un peu... de plus en plus... Plus j'avance, plus j'ai l'impression de parler à plus de gens. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai l'impression que mon travail probablement devient de plus en plus personnel, intimiste, appartient à une petite société que nous avons créée, le pape, scénographe, comédien, une équipe... est-ce que c'est ça qui fait que on est plus identifiable et qui fait qu'on est plus influencé, influent? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on peut définir mieux notre travail ou au contraire c'est lentement une un peu comme dans la pièce, une disparition. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est la réflexion que votre question m'amène. Fait que j'espère, en tout cas, j'espère que de fois en fois et de spectacle en spectacle, je cerne mieux les propos qui sont là, qui existent, et que je m'inscris de façon plus pertinente à chaque fois, mais ça serait prétentieux de le prétendre. Voilà.
Oui. Moi, je voulais vous demander, parce que vous disiez que depuis les années 2000 à peu près, vous travaillez principalement sur des auteurs québécois. Oui. Et je voulais vous demander pourquoi. Enfin, pourquoi ce choix-là? Et justement, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des enjeux politiques, par exemple, dans le fait de vraiment développer une identité ou de mettre en scène ces textes-là? Et est-ce que du coup, ça définirait peut-être une forme de théâtre québécois? Est-ce que ça, c'est un enjeu pour vous ou pas du tout? Parce que ça a été, entre autres, la grosse question, là, qu'on fait partie du même groupe et... Oui. Et hier, on a vu Tragédie romaine et on disait, est-ce qu'il y a un théâtre hollandais? Est-ce qu'il y a un théâtre québécois? Est-ce que, et comme vous dites, j'ai monté beaucoup de textes québécois et depuis ces dernières années, je m'intéresse à ça. Je me demande, voilà, pourquoi, quelles sont vos motivations et est-ce que ça définit une esthétique aussi?
J'ai probablement que ça définit énormément de choses, mais c'est sûr que, à force de ce qui m'intéresse, là, c'est ce qu'écrivent les gens autour de moi, ce que les gens viennent me proposer, peut-être parce que j'ai un parcours justement qui est précis dans le monde de la création, qui fait en sorte que je prends le temps de faire, de fouiller les choses, de trouver quelles sont ces paroles qui ont besoin d'être dites et d'essayer de comprendre pourquoi elles ont besoin d'être dites. Peut-être que des fois je me dis, là il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Je sais pas si j'ai la même chose à dire. J'ai probablement autre chose à dire, mais probablement que je peux trouver à travers cette parole-là qui existe autour de moi, qui est dans ce petit et ce grand pays que nous sommes. Je me dis, je l'ai fait le travail je pourrais le faire encore, de plonger dans Racine, Marivaux, Pirandello, Ibsen, etc. J'avais besoin de me servir de ces grands auteurs-là pour prendre la parole. Maintenant, j'ai vraiment plus envie de voir qui sont mes contemporains et d'être en démarche avec eux. Alors c'est peut-être ça qui me détermine, qui fait en sorte que je suis là où je suis. J'ai plus tellement envie de monter des Shakespeare ou autres, sauf quand j'enseigne dans les écoles, je trouve que ce sont des richesses qu'il faut connaître. Alors les partager avec les étudiants, les finissants des écoles de théâtre, ça j'adore ça. Mais une fois que ces gens-là viennent dans le métier, j'ai plus le goût de leur dire viens créer avec nous, viens plonger justement dans un univers complètement risqué, périlleux. Oui, ce péril existe ailleurs, mais quand les œuvres ont déjà une pérennité, tout ça. Oui. Ceci dit, oui, et probablement parce que je me suis donné énormément la mission de faire en sorte de développer la dramaturgie québécoise à l'intérieur de ma compagnie, c'est ce qui fait que je priorise, ce qui m'empêche pas de m'être intéressé à Martin Crimp, à Falk Richter et de les avoir montés aussi, même que je trouve que ça serait bien que dans nos théâtres qui ont plus de moyens ici, parce qu'on n'a pas les moyens des tragédies romaines, mais quand même, il y a des institutions et des compagnies intermédiaires qui ont un peu plus de moyens, et si ces textes contemporains pouvaient être plus souvent d'ailleurs, pouvait être plus souvent créé, ça serait extraordinaire. Mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. C'est un souhait qu'on a, plusieurs d'entre nous, et c'est pour ça qu'il faut faire des exceptions de temps en temps, comme de faire The Dragonfly of Chicoutimi. Pour nous, c'est une exception. On n'a jamais fait de répertoire, jamais dans l'histoire de la compagnie, on a monté une pièce qui avait déjà été montée, sauf on a triché avec quelques écritures contemporaines, comme le traitement de Martin Crimp, et quelques autres. Fait que, mais je peux aller tricher avec d'autres compagnies aussi.
En fait, je veux pas qu'on fasse le débat là-dessus, mais la question c'est un peu, est-ce que le théâtre québécois passe nécessairement par du répertoire québécois? Mais c'est une question intéressante. Je parlerai peut-être une dernière question avant de... Ah, oui. Je vais en prendre deux. Parce qu'il y a deux mains spontanées qui se sont levées. Oui.
Ça va? La première, je vais assister ce soir à la présentation. Et puis, vous avez insisté sur l'aspect musical. Je voudrais savoir, vu qu'on a la possibilité de choisir notre place, est-ce qu'il y a un endroit où vous pensez que c'est plus intéressant de l'entendre dans la salle?
Vous allez voir, c'est admission générale. Alors, alors vous avez le choix. Je l'ai écouté de toutes les parties. Je vous dirais, il y a une énorme différence parce que, il y a une différence, c'est que plus vous êtes à l'arrière, plus vous avez le portrait d'ensemble des choses sans devoir le focus se créer automatiquement. Quand vous êtes plus en avant, vous faites un travail supplémentaire et devez vous-même trouver le focus. Alors, moi, je pense que la meilleure place dans... Probablement pas, mais dans ce spectacle-là, c'est le centre et ça irradie sur l'ensemble. Mais la salle est tellement petite que je pense que ça s'apprécie sûrement de partout. Mais plus on est centre-centre, probablement que c'est le premier billet à acheter, mettons.
Il est acheté. Ma deuxième question, est-ce que le travail de Jean-Louis Millette a été filmé? Est-ce qu'il reste des traces de ça?
Oui. J'ai vu qu'il y a... Dernièrement, il y a eu une projection de la mise en scène, du spectacle. Mais je ne sais pas si on peut se le procurer, par contre. Je ne sais pas, mais peut-être... Dans quelques temps, oui. Mais il y a un document qui existe. Que c'est Jean-Claude Colbois qui a fait ça avec l'ONF. Et il y a fait un film sur Jean-Louis qui s'appelait le tragique. Non, comment ça s'appelait? Merde, j'ai oublié. En tout cas, dans ce film sur Jean-Louis, il y a énormément d'extraits du Dragonfly. Mais par la suite, il a filmé le Dragonfly une dizaine de fois. Et donc, Yann a fait un montage que j'ai vu, qu'il m'a fait voir il y a quelques mois, justement. Et il essaie de le mettre sur le marché. Mais je ne sais pas s'il va réussir.
En fait, j'aurais une question pour M. Tremblay. J'aimerais savoir, vous, c'est quoi vos processus d'écriture, vos inspirations, ou même encore les leitmotivs qui peuvent vous hanter pour vos pièces? J'aimerais aussi savoir... En fait, ma question, c'est quoi la génétique de votre écriture?
Wow! En fait, on pourrait dire qu'il y a deux axes. Parfois, j'ai des commandes. Alors, quand j'ai une commande, je pars de quelque chose qui ne vient pas de moi. Comme ces temps-ci, je dois en terminer une, très très bien, deux en fait. Et, par exemple, on me dit, voilà, je veux que tu écrives une pièce pour des adolescents. OK. Alors, je fonctionne souvent par corps, alors j'imagine des adolescents. Mes personnages vont être des adolescents et je commence. Je sais pas, je me fais confiance, j'y vais. C'est un peu comme écrire de la musique. J'ai rarement une structure de départ. J'ai des étapes. La première étape, c'est que tout est possible. Et donc, c'est l'autocensure qui est en général le premier problème de l'écrivain. Donc, il faut vraiment pas se juger au départ. Et même si ça paraît très, très mauvais, il faut continuer. À un moment donné, on sent le besoin de questionner ou d'enquêter son propre texte. Et c'est là qu'on est très rigoureux, très discipliné et très cruel envers soi-même pour éviter justement les banalités et l'exploitation de ses propres fantasmes. D'ailleurs, ces deux termes, je les ai volés à David Mamet. Il a écrit un tout petit livre, je pense que c'est 9 usages du couteau, je sais pas, en anglais. En bref, là-dedans, il disait que les deux problèmes de l'autodramatique, c'est la banalité et ses fantasmes. Mais tout le monde a des fantasmes, mais il faut les maîtriser. Surtout quand on les utilise pour faire des œuvres. Se laisser aller, ensuite enquêter, et ensuite faire des vérifications. J'ai la chance parfois de vérifier des textes qui sont pas terminés avec des acteurs et aussi un metteur en scène. Et ça, c'est vraiment, vraiment... Je viens d'en faire un il y a quelques temps. J'en fais un autre la semaine prochaine. Et je trouve ça très, très utile qu'avant qu'on ait terminé, on puisse l'entendre et vérifier des choses et aussi entendre des gens parler de ce texte en chantier. Quand on est jeune auteur, on est très fragile et je pense que cette étape se fait un peu peur parce qu'on risque de se faire détruire. Mais c'est plus mon cas. Je peux entendre toutes sortes de choses sur les textes en chantier. Et ça me dérange pas tellement parce que je sais que je peux tout refaire, réécrire. Et j'écris toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions. Et des fois, j'ai des textes qui s'échelonnent sur 12 ans, comme Abraham Lincoln, ou sur 3 semaines, comme le Dragonfly. Donc, et j'écris toujours plusieurs textes en même temps. Ça aussi, c'est une stratégie d'écrivain. Donc, un texte est parfois le contrepoint d'un second, et le troisième, la synthèse des deux précédents. Mais je pourrais encore expliquer plus longuement, mais... Je pense que ça peut vous donner une idée de la genèse de mes textes.
Donc, en terminant, donc Claude, après avoir travaillé sur Le Ventriloque, sur Abraham Lincoln et sur The Dragonfly, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'écriture de Larry que tu trouves que tu n'as pas encore réussi à mettre en scène ou qui te ferait encore rêver pour mettre... Est-ce un aspect de son univers théâtral, littéraire, poétique qui est encore à concrétiser scéniquement parlant?
Je sais pas, probablement, c'est sûr. C'est sûr que c'est incomplet. D'abord, Dragonfly, c'est trop nouveau pour savoir où sont les... Mais
non, je parle pas de défauts. Hein. Je parle de quand on travaille sur un univers, des fois, concrétiser ça et que...
Je pense que ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est... J'allais dire, c'est de faire en sorte que l'aspect physique, le travail physique, comment je dirais, aller ailleurs, je sais pas où, mais en Inde, voilà. Donc, peut-être plonger dans tout le travail de catacalie qu'a fait Larry, bien qu'on l'avait touché un petit peu avec Abraham Lincoln. Mais, je sais pas, il y a probablement que ça serait ça. Mais je sais qu'en même temps, pour avoir travaillé avec des danseurs, c'est tellement un texte, c'est tellement difficile à se mettre en bouche que je ne sais pas comment faire le passage. Des fois, je me dis, ça serait le fun de mettre en danse un texte de Larry, mais comment faire ça? Je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait être avec les mains bleues.
sur
mais je comprends ta question, puis j'ai de la misère okay. à... Ouais.
Même question, peut-être que la réponse est difficile aussi à trouver. Est-ce que, comme auteur, il y a encore quelque chose que tu n'as pas vu sur scène, que toi, tu ressens comme écrivain, et que tu n'as pas encore vu concrétiser sur scène?
Martin, tu poses vraiment des questions difficiles.
C'est pour
terminer. Ben, en fait, on reste toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant qui veut être étonné toujours. J'ai des nouveaux textes, donc... comme là, j'ai terminé il y a dernièrement une cantate de guerre. C'est une pièce sur la guerre, très cruelle, et chorale. C'est. Donc, le fantasme que j'ai, c'est de voir 40 acteurs sur la scène jouer cette cantate. Malheureusement, c'est ça. Donc, je n'aurai pas ce fantasme-là. Enfin, je veux dire, ils vont pas se réaliser parce que ça coûte trop cher. Mais un jour, peut-être que cette pièce pourra être jouée avec un chœur de 40 acteurs. Pourquoi pas, hein?
Bien, Claude Poisson, Larry Tremblay, merci beaucoup. Et j'espère que votre collaboration, vos univers, en fait, artistiques vont continuer à se côtoyer et à s'enrichir mutuellement. Alors, longue vie au Dragonfly.
Merci Martin.
Et merci à vous. Alors voilà.